France Musique.
Alors moi, il m'épate.
Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose.
Bonjour à toutes et à tous, et heureux de vous retrouver pour cette 12e émission de Mazette, quelle musique ! Sans rester le nez sur notre montre, aux alentours de 3h, nous aurons nos badineries coutumières. Ce sera sur le coup de 3h, ou plus exactement aujourd'hui, savure le vœu qu'à vous de vœux, travois à vœur. Vous verrez. Et puis nous tâcherons d'être suffisamment en avance pour ne prendre aucun risque de rater la correspondance de 15h21, correspondance qui va nous faire voyager très loin aujourd'hui. Je ne peux vous le cacher, la direction nous a fait part de deux interrogations évidemment légitimes, et ceci de manière très bienveillante et même gentille. Un, serait-il possible au moins une fois par mois d'élever un peu le niveau intellectuel et culturel de l'émission ? Bon. Deux, faudra-t-il attendre encore plusieurs dimanches avant d'entendre une sonate de Scarlatti dans Mazette, quelle musique ? Réagissant avec reconnaissance pour ces alertes et pragmatisme, nous avons choisi pour ce quatrième dimanche du mois de traiter une problématique de belle allure, nous semble-t-il, a priori on va voir de bonne tenue scientifique et culturelle. La musique de Gamelan est-elle soluble ? La musique de Gamelan est-elle soluble ? Un thème, nous semble-t-il, digne d'une émission de haute volée de France Culture, mais nous sommes sur France Musique. Donc, foin de tout excès de bavardage, de la musique avant toute chose, et pour cela préfère Scarlatti, plus vague et plus soluble dans l'air, qu'elle à propos, Scarlatti puis sans autre commentaire de la musique balinaise. Mazette, la musique des dieux.
Thank you.
Nous venons donc d'entendre la rutilante sonate Kirkpatrick 545, Prestissimo de Domenico Scarlatti, et les deux premiers cycles d'une merveilleuse musique, vraiment flamboyante, immédiatement envoûtante même, je trouve, une musique de Bali. C'est une musique savante, de cour, elle date du XVIIe siècle, et pour peu qu'on prête l'oreille, on y entend un grand raffinement, une science et un goût parfait dans la manière d'introduire la musique, de faire se succéder les épisodes, d'étager l'entrée des instruments, une grande luxuriance des timbres, des sonorités, des combinaisons instrumentales et rythmiques qui changent sans cesse avec de splendides effets d'accélération impétueuse ou de ralentissement presque sensuel, des percussions magnifiques et puis aussi cette flûte d'une extraordinaire suavité. Nous écoutions le début de Legongkraton, c'est-à-dire mot à mot une musique de danse pour le palais royal. C'est tout à fait au sud de Bali, face à l'océan Indien. Une musique magique qui fait partie d'un répertoire, le répertoire Semar Begulingan. Semar, c'est le dieu hindouiste, donc balinais de l'amour. Begulingan signifie, nous dit-on, quelque chose comme s'allonger, se coucher. Voici revenus les oreillers, mais sans hérissons cette fois-ci. C'est une musique nocturne qui est jouée dans les cours et les jardins du palais, au bord de l'onde, près des chambres, pendant les ébats amoureux des princesses et des princes royaux, et jusqu'à leur assoupissement. Fin de cette musique sublime de danse Semar Begulingan du Palais Royal de Bali. Alors, nous n'allons pas devenir en deux temps trois mouvements des experts de la musique de gamelan. D'abord parce que c'est impossible, ce sont des milliers d'îles, d'archipels indonésiens, des dizaines, voire de centaines de traditions et d'esthétiques musicales populaires ou savantes, pour certaines multiséculaires. Ce serait comme si on pouvait prétendre en quelques minutes et quelques exemples musicaux tout savoir des 8 ou 9 siècles de musique occidentale connue. Et puis surtout parce que en ce début d'après-midi de dimanche, ce n'est pas du tout notre propos. Nous allons nous satisfaire de découvrir ou de redécouvrir de la musique et puis surtout d'être pris par l'émotion, le plaisir extraordinaire à l'écoute de ces musiques sans ouvrir des encyclopédies ou convoquer les experts. De la musique encore et toujours. Et puis nous allons plonger dans cette musique de gamelan, mais aussi nous allons suivre la belle aventure du gamelan, de ses parfums incomparables, solubles ou non, nous verrons, dans notre musique occidentale. Nous avons changé d'île, ce n'est plus Bali, c'est le centre de Java, c'est le gamelan de Solo, Sukarta aujourd'hui. Solo, c'est un petit village qui est devenu au XVIIIe siècle la capitale d'un royaume et le siège d'une cour avec un rayonnement politique, économique, culturel considérable. C'est un des grands centres de perpétuation de la musique savante à Java. Même splendeur sonore que la musique Semar Begulingan de Bali, mais sans doute plus suave, plus tendre, plus douce, plus lente aussi, avec des sonorités instrumentales très proches. Et puis on a entendu la voix. Il y a trois grandes aires de musique de gamelan Bali, on l'a vu, avec le gamelan balinais. La partie centrale et orientale de Java avec le gamelan de Java. Et puis le pays sundanais, le gamelan de Sunda, c'est à l'ouest de la grande île de Java, c'est presque à 1000 km de Bali. Et ce gamelan de Sunda ressemble à celui de Java, mais avec quelques particularités. Notamment, il existe à Sunda un gamelan de chambre d'un charme sans pareil. On va l'entendre tout de suite, c'est une pièce très ancienne qui s'intitule « Le rivage » ou « Junglout » avec une flûte très virtuose, une très grande sensibilité et d'infinies variations de mélodie et de rythme. Trois régions, donc Bali, Java et Sunda, dont on écoutait une musique très très belle pour un ensemble de chambres. Des musiques très différentes et puis surtout des usages qui ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre selon le lieu, religieux, public, privé, institutionnel, théâtral, chorégraphique, etc. Mais au-delà de ces différences et puis des spécificités très nombreuses, les instruments sont pour l'essentiel les mêmes. Et d'ailleurs, à Java et à Sunda, on parle de gamelan, mais à Bali, on parle de gong, c'est-à-dire que c'est un peu comme si Christian Merlin disait un violon pour désigner tout l'orchestre symphonique, une belle synecdoque de la partie. Les gongs, et plus généralement les instruments de percussion, sont prédominants, ils sont en bronze, ils sont frappés avec un maillet, une maillotche ou une baguette, d'où le terme de gamelan qui vient du verbe gamel, qui veut dire manipuler, frapper. L'ensemble instrumental comprend donc des gongs, circulaires, suspendus, grands et petits, et aussi des plaques de bronze qui sont posées sur des châssis en bois avec des résonateurs en bambou, des cymbales et puis ces gongs, vous savez, qui ont une forme de bulbe ou de grand bol renversé, toujours en bronze. On les voit sur les images qui sont sur notre site. Ils sont posés sur des supports individuels ou par des batteries impressionnantes de 6 ou de 14 gongs. Et puis, il y a également quelques xylophones avec des caisses de résonance. En plus de tout ça, des tambours à membrane de peau qui sont très importants parce qu'avec certains gongs, c'est eux qui tiennent la musique. Ils ponctuent, ils donnent les indications de rythme et c'est eux qui donnent le signal des fluctuations, des accélérations et des décélérations, comme on l'a entendu. Suivant les régions, s'y adjoignent des instruments à cordes, un rebab par exemple, très, très comparable à une vielle à deux ou trois cordes, une petite flûte, on l'a entendu, mais aussi des voix. À Java comme à Sunda, des voix et même des chœurs pour les grandes cérémonies religieuses ou institutionnelles, pour la musique de danse, pour les représentations du Ramayana, le théâtre d'ombre ou le théâtre de marionnettes. Vous verrez sur le site de l'émission une magnifique photo, merci Nelly, d'un grand ensemble de gamelans qui date sans doute des années 30 du siècle dernier. Ça donne envie de s'y replonger et d'être à l'écoute de ces sonorités et de cette incroyable polyphonie de micro-mélodies, de timbres et de rythmes. Thank you. Voilà, cela s'entend, nous sommes de retour à Bali. Musique plus typée, plus brillante, nerveuse, plus spectaculaire, moins de sonorités exquises et suaves, plus de puissance, notamment dans les musiques qui ont été composées au début du XXe siècle, comme celle qu'on vient d'entendre, dans le style qu'on appelle kebiar, ça veut dire s'enflammer, exploser. Vous avez peut-être été surpris par un passage qui est d'ailleurs assez explosif, qui ressemble à cela. Et même d'ailleurs plus précisément à ça. Sur scène, dans une représentation théâtrale du Ramayana, ces grands ballets opéras sur les aventures de Rama et de Sita, cela donne quelque chose comme... La première fois, cela surprend un peu, c'est ce qu'on appelle le kejak. Le chœur imite de manière saisissante les crapauds buffles, et puis d'autres batraciens aussi, et ce motif des crapauds apparaît dans la musique instrumentale, comme on l'entendait il y a quelques minutes. Chaque ensemble de gamelans est celui d'un lieu, il est donc unique. Il est issu de la décision très locale de constituer un gamelan. Chaque gamelan a ses musiciens. Il a d'ailleurs aussi son propre accord qui diffère d'un gamelan à l'autre. Il a ses traditions, ses intonations. Et il fonctionne sur deux échelles, deux gammes qui peuvent être un peu modulées d'un gamelan à l'autre. Une gamme pentatonique, vous savez, vous prenez les touches noires du piano, vous commencez sur le sol dièse, c'est exactement ça. Ou bien une gamme heptatonique, c'est-à-dire avec 7 degrés, comme dans la musique occidentale, mais pas avec les mêmes écarts. Vérification d'un accord d'une batterie heptatonique d'un gong à bulbe dans un orchestre de Bali. Ah, s'il y avait un spécialiste en studio, il m'aurait tout de suite repris. Il ne faut surtout pas parler d'orchestre, parce que ça n'a rien à voir avec les orchestres dont Christian Merlin nous fait découvrir les arcanes somptueuses chaque dimanche sur France Musique. Non, le gong ou le gamelan forment un seul instrument. Un piano à 30 ou 50 mains, pour reprendre la belle image de Catherine Basset, éminente amoureuse et experte de ses musiques. C'est un instrument collectif, en quelque sorte. D'ailleurs, on n'apprend que collectivement, on ne revient pas chez soi avec son instrument pour répéter. Et les musiciens sont assez largement interchangeables. Et dans le collectif, un musicien peut n'assurer avec son instrument qu'une bribe de mélodie ou même qu'une seule note en alternance avec d'autres musiciens et d'autres instruments. Il faut donc à la fois de la virtuosité et vraiment de la précision, à la fois du jeu individuel et du jeu collectif, notamment lorsque la mélodie passe sans cesse d'un instrumentiste à l'autre, et qu'il faut jouer parfaitement, chacun à sa place, les accélérations soudaines. C'est quelque chose de miraculeux. Emboîtement de précision, vraiment, enchevêtrement parfaitement ajusté des voix, des notes, des formules rythmiques, chaque instrumentiste étant comme une touche de piano, alternant parfois très vite et brusquement sa note ou son groupe de notes et de court silence, comme s'il avait le hoquet. C'est d'ailleurs exactement la technique dite du hoquet, hoquet, Q-U-E-T, dans la musique médiévale. Voici d'ailleurs un hoquet, le hoquet de David, de Guillaume de Machaut, même principe exactement, des sons isolés, détachés, en alternance d'une voix à l'autre, et pourtant aucun contact avéré entre Guillaume de Machaut et les musiciens balinais, c'est certain. Quittons donc l'île de Bali, séjour des magiciens, des démons, des dieux, pierre d'émeraude remontée de l'océan comme l'a écrit Christine Jordis, et filons à Reims dans les années 1350, une pimpante version instrumentale de ce Hoquetus David à trois voix, deux cornets à bouquin, une flûte à bec alto et des cloches. Trois minutes de hockey génial, quelle musique! Ce hockey David de Guillaume de Machaut, à la saveur balinaise anachronique, serait un hommage à Maître Perrotin, Perrotin le Grand. Perrotinus Magnus, c'est-à-dire en latin Petit Pierre le Grand, et c'est avec ce diminutif que ce maître est passé à la postérité. C'est le grand maître de la seconde génération de l'école de Notre-Dame. L'école de Notre-Dame, qui a démarré avec le chantier de construction de la nouvelle cathédrale en 1163, va écrire une musique nouvelle pour les nouvelles voûtes gothiques et puis pour toute l'Europe en fait. La première génération, c'était celle de Léoninus, Petit Léon. Il avait créé l'organum et puis Perrotin le Grand va perfectionner ça en écrivant des organums à quatre voix, des grands chefs-d'œuvre vers 1198-1199. Qu'est-ce qu'un organum à plusieurs voix ? Il y a la voix principale, celle qui tient le chant, la teneur, le ténor donc. Il chante une mélodie grégorienne en notes très longues, jusqu'à une minute, même une minute vingt sur une seule syllabe, C, D, Rund, etc. Et puis les autres voix, les voix organales, le duplum, le triplum et même le quadruplum, si on est sur un organum à quatre voix, chantent au-dessus sur des mélodies indépendantes, en valeurs courtes, mélodies très ornementées, fleuries, avec un rythme complexe et rapide. Et toutes ces voix se retrouvent à la fin des syllabes et surtout pour un accord marqué au début comme à la fin de chaque mot. À quatre voix, ça devient une musique très impressionnante. D'ailleurs, certains chroniqueurs de l'époque prétendent dire que ça déclenchait les accouchements. Les médias n'étaient donc pas très fiables à cette époque-là. Quel rapport avec le gamelan, vous demandez-vous? Eh bien, à l'écoute, on s'interroge. Perrotin avait-il fait un séjour à Bali? Non, bien sûr, mais la musique a de très belles résonances, des effets de répétition obstinés, les changements sont incessants, de pieds, de micro-mélodies. La musique crée un effet envoûtant, un très bel étagement des voix. Le premier accord est détaché et fulgurant comme un coup de gong, il savait faire et de manière saisissante. C'est l'antienne, la première partie du Sederun Principes de Perrotin le Grand. Quelle musique! On y entend d'ailleurs des points de ressemblance, mais aussi une distance irréductible entre la musique de gamelan et la musique occidentale, à tout le moins avant que les musiciens d'Occident découvrent Bali et Java. Un autre rapprochement, oui, éloquent lui aussi, je crois. Nous allons écouter le premier mouvement moderato de la bénédiction de Dieu dans la solitude, chef-d'œuvre pianistique s'il en est de Franz Liszt, inspiré par le poème éponyme de Lamartine dans ses harmonies poétiques et religieuses. Alors tout y est d'une certaine façon, mélodie longue à la main gauche, qui a sûr également des notes de pédale longue. À la main droite, les deux doigts extérieurs font des trilles continues. Les autres doigts font des accords arpégés sur une échelle pentatonique. Il y a une espèce d'ostinato, d'apparence répétitive, mais en réalité avec une très grande variété des micro-mélodies, des modulations incessantes. Comme dans les îles des mers du Sud, où retentit le gamelan, ici il y a une surabondance d'émotions musicales devant la splendeur surabondante de la nature, lieu de la présence divine. C'est ce que nous disent le poème de Lamartine et la musique de Liszt. D'ailleurs, Alfred Brendel s'est exclamé « Existe-t-il une autre pièce pour piano d'une douceur sonore aussi grisante ?» On a parfois des réminiscences de Java et du pays de Sunda. Brendel est au piano.
Thank you.
Tout y est, mais la singularité de l'une et l'autre musique reste radicale. Allez, une petite énigme maintenant. Les toutes premières mesures du dernier mouvement de la symphonie sur un chant montagnard français avec piano obligé de Vincent d'Indy, composé en 1886. Les commentateurs n'y voient qu'un carillon volubile. Mais nous qui revenons des îles lointaines et qui avons le gamelan dans les oreilles, nous sommes stupéfaits. Comment Vincent d'Indy a-t-il pu écrire cette introduction sans avoir entendu de gamelan, d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que lors d'une réincarnation précédente ? Promis, nous reviendrons sur ces hauteurs des monts du Vivarais, dont l'air grisant nous rappelle celui des pentes du mont Agung, le volcan, séjour des divinités de Bali.
Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
En 1879, la musique de gamelan arrive enfin en Occident, plus précisément à Arnhem, aux Pays-Bas. C'est l'exposition nationale de l'industrie hollandaise et coloniale. Et on y accueille un ensemble de gamelans de Java Centre. Première présence de la musique javanaise en Europe, mais peu de retentissement au royaume de Hollande, qui n'avait pas encore soumis d'ailleurs la totalité des Indes néerlandaises. Et puis personne n'entendit parler de cette prestation hors des frontières bataves. En 1882, un ensemble de la cour de Yogyakarta, c'est le grand centre culturel de Java, se produisit en petit comité à l'aquarium royal de Westminster. Pas de trace de présence de Vincent d'Indy, ni à Arnhem, ni à Londres. Mais tout change en 1889. C'est l'exposition universelle de Paris, nous l'avons dit, avec la toute nouvelle Tour Eiffel, et on fête le centenaire de la prise de la Bastille. Alors la monarchie batave est très peu enthousiasmée par cet anniversaire, et au village javanais, on produit simplement un assemblage douteux d'un gamelan de Java non professionnel, de seconde catégorie si on peut dire, et puis de quatre danseuses à peine adolescentes qui sont encore en cours d'apprentissage à la cour royale de Solo. Et malgré tout, l'impact est majeur parmi les musiciens parisiens. Il en sera de même d'ailleurs avec les spectacles de gamelan de l'exposition universelle de 1900, et peut-être encore plus en 1931 lors de l'exposition coloniale internationale qui a lieu à la Porte Dorée. En 1889, Debussy lui-même est très impressionné. Il est subjugué, il écrit « La musique javanaise contient toutes les nuances, même celles qu'on ne peut plus nommer. Elle observe un contrepoint auprès duquel celui de Palestrina n'est qu'un jeu d'enfant. Et si l'on écoute, sans parti pris européen, le charme de leurs percussions, on est bien obligé de constater que la nôtre n'est qu'un bruit barbare de cirque forain. Leur conservatoire, c'est le rythme éternel de la mer, le vent dans les feuilles, mille petits bruits qu'ils écoutent avec soin, sans jamais regarder dans d'arbitraires traités. » Cet enthousiasme, cette stupéfaction même pour la musique de gamelan, se traduisent immédiatement dès 1889 et très durablement dans la musique de Debussy. Un exemple parmi tant d'autres, « Cloche à travers les feuilles », extrait des images pour piano, composé en 1907. Brouillage des repères, est-on en majeur ou en mineur? Quelle est la tonalité? Est-ce dissonant? Est-ce consonant? Peu importe. Structuration de l'œuvre par le rythme et les sonorités plus que par la mélodie. Construction par juxtaposition de sections musicales bien typées. Fluctuation très rapide du rythme et des sonorités. Attention portée à la résonance. Tout ce qui caractérise la musique javanaise est dans cette musique de Debussy, bien au-delà d'une simple imitation cursive. Debussy est sans doute le premier, mais à partir de 1889, l'influence de la musique de Gamelan en Occident ne va cesser de croître. Quasiment inexistante dans le monde germanique, elle est avant tout une histoire passionnelle avec les musiciens en France, qu'ils soient français ou non d'ailleurs. Il y a aussi un certain goût des Hongrois, Ligeti, puis avant lui Bartok, si on pense au concerto pour orchestre, à Contraste, à certaines pièces de Microcosmos. Et puis à partir des années 40-50, 1940-1950, ça devient une affaire américaine, artistique, puis très vite commerciale. Une passion française d'abord, donc une passion des musiciens en France. Ravel d'abord, en 1907, c'est Laideronnette, impératrice des pagodes, tirée de Ma mère Loi, dans la version d'origine, à deux pianistes, en l'occurrence Martha Argerich et Mikhaïl Pletnev. L'exposition coloniale de 1931 va déclencher une nouvelle vague de passion pour la musique de Gamelan, et l'œuvre la plus emblématique de cet engouement renouvelé en France, c'est sans aucun doute le concerto de Poulenc pour deux pianos. Il a été créé en 1932, juste après l'exposition coloniale. Plusieurs sections sont tout simplement des imitations littérales de Gamelan. Gamelan de Java, à la fin du premier mouvement, en prêtant l'oreille d'ailleurs, vous entendrez même la citation malicieuse et répétée des premières notes de la mélodie de l'adagio du concerto de Ravel, qui a été composé juste l'année précédente. Vous savez,
thank you.
du gamelan de Java comme si on y était. Et à présent, au début comme à la fin du même concerto pour deux pianos de Poulenc, une imitation de gamelan, partons du gong de Bali, très rapide, plus nerveux, nettement moins suave et rêveur, mais puissant. La musique de gamelan serait donc miscible avec celle de Poulenc, mais est-elle soluble? Pas certain. Petite expérience scientifique. Dans les années 30, Colin McPhee, compositeur canadien très éclectique, est le premier compositeur occidental à se rendre sur place à Bali avec une approche ethnomusicologique de la musique de gamelan. Il la transcrit pour piano, il s'en inspire aussi pour ses œuvres. Et en 1941, à New York, McPhee rencontre Britten, qui est alors exilé aux États-Unis. Il lui fait découvrir la musique de gamelan à travers ses transcriptions pour piano et tous deux les enregistrent à quatre mains. C'est aussi en 1941 qu'une première expédition ethnomusicologique, celle de Fanstock, parcourt les mers du Sud pour enregistrer le patrimoine musical des îles, notamment à Bali, dans un souci de préservation, de conservation de ce patrimoine. Le son de ces enregistrements est épouvantable, mais si vous m'y autorisez, nous allons néanmoins en écouter juste quelques instants, c'est assez émouvant. Il s'agit justement du répertoire Semar Pegulingan que nous connaissons. C'est une même œuvre Gambang, d'abord dans la transcription assez imaginative de McPhee, jouée par lui-même et Benjamin Britten. Et à présent, le tout début de l'enregistrement de l'original gamelan par la mission Fanstock en 1941, c'est en plein air et on va entendre les oiseaux de paradis balinés. Ce son d'il y a 80 ans, quelle musique ! Peut-être ne faut-il pas chercher à la dissoudre, notamment dans des transcriptions très occidentalisées. Ce début des années 40 est donc un jalon fondamental, finalement. D'abord, c'est une étape fondatrice dans la prise de conscience encore balbutiante de la nécessité d'agir pour préserver la biodiversité des musiques savantes et populaires de gamelan. 80 ans plus tard, ça reste un vrai sujet, un combat de longue haleine, loin d'être gagné. Pour dire les choses, d'ailleurs, avec la pression médiatique et la pression touristique, on peut être très pessimiste. Et puis, le début des années 40, c'est aussi le moment où Britten, qui va bientôt retraverser l'Atlantique, et puis beaucoup de jeunes compositeurs américains vont s'approprier cette musique de gamelan. Chez Britten, la musique de gamelan deviendra un élément organique de son écriture, notamment dans les compositions pour la scène. On va écouter une scène de la quatrième partie de son ballet Le Prince des Pagodes, une imitation brillante mais assez littérale de gamelan baliné. Thank you. Du côté américain, avec quelques décennies d'hystérésis par rapport à l'Europe et la France notamment, et dans un contexte esthétique très différent au milieu du XXe siècle et au cours des décennies qui vont suivre, l'appropriation de la musique de Gamelan se fait de multiples façons par un très grand nombre de compositeurs, Steve Reich, John Adams, Lou Harrison, Don Cherry, le jazzman, etc., etc. On va pas tous les citer, à fortiori les écouter. L'approche de Philip Glass, un des papes du minimalisme, repose sur une très fine compréhension des structures de la musique de Gamelan et on l'entend parfaitement dans son étude numéro 2. C'est une belle œuvre, surtout si on veut bien éviter tout alanguissement, toute préciosité, la jouer sans affaîtrie, avec ardeur, presque avec un peu de rage, à la balinaise.
Thank you.
sur le coup de 3 heures. L'heure des badineries. Pas une raison pour ne pas traiter des questions sérieuses avec la rigueur scientifique requise. Exemple de questions sérieuses, y a-t-il un rapport entre la Java, la danse, et Java ? Java, pas le langage de programmation informatique et sa séduisante plateforme, mais l'île de Java, sa musique, sa danse divine. Nous sommes sur France Musique et non sur France Culture tout de même. Eh bien, on ne sait pas. La Java est une danse à trois temps, avec des petits pas, vous savez, un peu déhanchés, un peu dandinés, très populaire notamment dans les bals musettes pendant la première partie du XXe siècle, une espèce de mazurka un peu dévoyée. Quel rapport y aurait-il avec la danse javanaise de cour, qui était à peu près inconnue à l'époque ? Mystère. Certains linguistes sérieux, paraît-il, mais très audacieux, ont cherché et ont cru trouver une origine auvergnate. Java serait issue de la corruption de Sava, que nous, les Auvergnats, prononçons avec un très léger chuintement, Chava. De Sava en Chava, on serait arrivé à Java. Bon, même à l'heure des badineries, ça passe mal. Peu importe. Et la fameuse Javanaise de Gainsbourg, chanson composée, on le sait, en moins de 2 heures, un matin de l'été 1962, juste après une soirée et une nuit extatique de musique, de champagne chez Juliette Gréco dans l'immense salon germano-pratin du 33 de la rue Verneuil dans le 7e arrondissement de Paris. Chanson charmeuse, immortalisée par Gréco. Me pardonnera-t-on un jour une infidélité indéfendable ? Ce n'est pas une des sublimes versions enregistrées par Juliette Gréco que nous allons entendre, mais un nouvel enregistrement de 2021. C'est Mélodie Gardot, c'est beau, et surtout c'est André Manoukian qui l'accompagne et qui même la précède et la suit avec une magnifique réminiscence de gamelan javanais. Il fallait oser, c'est irrésistible, je n'ai pas résisté à nos oreilles.
J'avoue, je n'ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir au vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous nous aimions le temps de ne à votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain, mais vous, à l'amour, j'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant là javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.
magnifique. Pourquoi javanaise? Réponse de Juliette Gréco. C'est d'abord un jeu, pas un jeu de mots, mais un jeu avec les mots grâce auxquels ils prennent une valeur, une couleur beaucoup plus forte. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous. C'est superbe. Il l'a appelé comme ça. C'est du javanais. Ça n'a rien à voir avec le javanais tel qu'il se parlait autrefois. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus musical. Tiens donc le javanais. Quel rapport avec Java? Je parle pas du javanais parlé par plus de 100 millions de javanais, mais du javanais, la langue de feu, vous savez, apparue en France il y a 150 ans environ. En javanais, mazette se dirait mavazevet. On insère une syllabe supplémentaire entre les voyelles et les consonnes, ça rend la parole peu compréhensible, voire tout à fait incompréhensible, sauf pour les initiés. Exemple avec deux extraits des exercices de style de Queneau. L'introduction que j'ai comprise, et puis le javanais, j'avoue, je n'y comprends pas grand-chose.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un jour, vers midi, du côté du parc Monceau, sur la plateforme arrière d'un autobus à peu près complet de la ligne S, aujourd'hui 84, j'aperçus un personnage au cou fort long qui portait un feutre mou entouré d'un galon tressé au lieu de ruban. Cet individu interpella tout à coup son voisin en prétendant que celui-ci faisait exprès de lui marcher sur les pieds chaque fois qu'il montait ou descendait des voyageurs. Il abandonna d'ailleurs rapidement la discussion pour se jeter sur une place devenue libre. 2 heures plus tard, je le revis devant la gare Saint-Lazare, en grande conversation avec un ami qui lui conseillait de diminuer l'échancrure de son pardessus en faisant remonter le bouton supérieur par quelques tailleurs compétents.
Javanais.
Avant je veux, on va vers mi vina vin, si vous avez un vent, tout peu buvus de la valise vigne et vcv. Je veux vapeur vers ce vin, avant je veux un vin, mais avec un vin long, vont coup vous. Et vient avec chabat pour vous, on va tout vous rêver, pas arriver une fille, vice belle, au beau lieu veut d'avoir arrivé, bon vent. Tout vous t'avoue coup, et vilain va terre vers pévé, la va sans mon voisin, voisin vin, on va prévêt en vendant qui vit le vu, ma chère véché sur vers les vestes pévé. Va oui. Et vilain va bavard de venavar, avant puis vite, va m'en vendre, la va divisque vicivion. Pour vivre sur ma jeu, t'éveille, si vous avez une plavasse, vous l'y vibre, va. De veux, je veux revoir plus vite, avant, je veux le voir, revoir vivi. De vous m'en vendre, la va gavard, c'est mal, la va, je veux revoir. On va grand vent, de veux converser vers sa vassivion, avec un vacavam, avant, 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 de veux. Qui vit lui, vit, divise, avait, de veux, divi, mi, vini, 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 vini.
Rapport avec Java, l'île ou pas? Les linguistes les plus distingués nous répondent. Le javanais, la langue parlée à Java, est une langue à infixe. Les infixes sont des éléments qui sont placés au milieu de la racine d'un mot, au lieu d'être avant, préfixe, ou après, suffixe, comme chez nous, si j'ose dire. C'est de cette particularité que serait issu le nom de javanais donné à ce codage argotique à phonologie parasitaire, SIC. Est-ce que c'est vraiment sérieux? J'y vis, crevois, pava. Java, javanaise, javanais, aucun rapport, je crois.
France Musique, Mazette, quelle musique? Jean-Yves Larouturou.
Reprenons le cours de notre vagabondage parmi les sortilèges de la musique de Gamelan. La musique de Gamelan est-elle soluble? Un des compositeurs les plus imprégnés de cette musique sur le plan de la compréhension théorique, de l'analyse, autant que dans la trame de son œuvre, dans la matière musicale et sonore elle-même, c'est Olivier Messiaen. Et dans un très grand nombre de ses compositions, des années 30 jusqu'au dernier chef-d'œuvre, la musique de Gamelan est présente. C'est vrai dans l'impression sonore que retend l'auditeur, qui se dit « tiens, ça sonne comme du Gamelan, parfois baliné, parfois javanais ». C'est aussi vrai dans le travail de composition lui-même, mais si on le dira et le redira, le primat donné à la résonance et au timbre, au rythme, à ses fluctuations, les ostinatos rythmiques et mélodiques, mais aussi l'impression d'une grande liberté, presque d'une improvisation, la recherche avant tout de l'éclat dans la suavité sensuelle comme dans le cataclysme sonore, le fait de dépasser ou de brouiller la perception des modes, des tonalités, des repères de consonance ou de dissonance, ou les choix de tonalité aussi, tout cela, c'est-à-dire tout ce qui caractérise la musique de Gamelan, Messiaen l'a fait sien. Il le dira, il l'écrira très tôt. Plus bizarrement, il faudra attendre les années 80 pour qu'il reconnaisse, qu'il avoue à Claude Samuel en l'occurrence, qu'effectivement, dans de nombreuses œuvres, depuis les années 40, il lui est arrivé, sans le proclamer haut et fort, de constituer dans son orchestration un petit ensemble instrumental en vue de faire apparaître comme une image, une reproduction sonore du Gamelan au sein du grand orchestre occidental. Donc c'est un ensemble de Gamelan à la Messiaen en quelque sorte, piano, glockenspiel, celesta, triant, triangle, vibraphone, xylophone, marimba, des cloches, des petites cymbales, des tambours, des gongs, tam-tam, et puis, pour se substituer au rébab, des ondes marteneaux, par exemple. Alors, on est très loin des imitations littérales, de Poulenc ou de Britten et d'autres, et d'une certaine façon, pour le piano comme pour le grand orchestre, Messiaen écrit vraiment de la musique originale de Gamelan. Et Pierre Boulez, plus tard, s'en souviendra à sa façon, dans un très grand nombre de ses propres œuvres. Dans la profusion de sublimes moments de Gamelan luxuriant de Messiaen dans son œuvre, on va retenir deux extraits du milieu des années 40. D'abord au piano, un Gamelan à lui seul, la péroraison finale de Noël, le 13e des 20 regards, écrit en 1944. C'est Noël à Bali. Magique. Et maintenant, écoutons Tour en Galila 3, qui est écrit en 1946. C'est la 9e des 10 pièces de la Tour en Galila symphonie de Messiaen, pour très grand orchestre, avec piano, ondes marteneaux. C'est la nuit. Étendue dans le jardin d'amour, les amants rêvent. Nous sommes sous le ciel joyeux et étoilé de Java. Thank you. La correspondance de 15h21. La correspondance de 15h21 nous a conduit aujourd'hui dans l'île de Bali. L'île des dieux, l'île des musiciens, l'île du tourisme mondialisé de masse de plus en plus, l'île des suicides collectifs rituels, avec le sourire, les poupoutanes, les touristes l'ignorent souvent. Le 14 septembre 1908, un détachement de l'armée des Indes néerlandaises débarque à Bali et il marche sur la capitale, Denpasar, sans rencontrer âme qui vive. Le Raja sort de son palais au bruit de tambours funèbres, une procession solennelle avec toute sa suite, son gouvernement, toute sa maison princière. Toutes et tous portent des vêtements blancs, la tenue de crémation. Au signal du Raja, un prêtre le poignarde avec le kris sacré et toute la procession fait de même, se poignardant les uns les autres. Les femmes, avant de succomber, jettent aux soldats avec des sourires ironiques des bijoux et de l'or et plus de 1000 personnes meurent ainsi et le palais prend feu. La mort sereine plutôt que l'humiliation. Le dernier poupoutan eut lieu à Marga, dans le centre de Bali, au cours de la guerre d'indépendance, devant les troupes néerlandaises. C'était en 1946, il y a 75 ans seulement. Claude Vivier, compositeur canadien, est l'auteur de belles œuvres, mais les circonstances de sa mort sont plus connues que sa musique n'est fréquentée. Au printemps 1983, Vivier meurt, poignardé dans sa chambre. Il était alors en train de composer une œuvre pour chœur, synthétiseur et percussion. « Glaubst du an die Unsterblichkeit der Seele »« Crois-tu à l'immortalité de l'âme ?» Le texte mis en musique s'achève ainsi. « Je lui dis que mon nom était Claude. Alors, sans autre forme de présentation, il sortit de son veston noir foncé acheté probablement à Paris, un poignard, et me l'enfonça en plein cœur. Il faisait nuit et j'avais peur. » Terrifiant. Ce n'est pas moi qui écris ma musique, c'est peut-être les fleurs que j'ai senties, le geste que j'ai fait, les êtres que j'ai vus, les étoiles, on ne sait jamais, la musique est amour. 6 ans plus tôt, à l'automne 1976, Claude Vivier arrive à Bali, le jeune musicien a 28 ans. Me voilà donc rendu à Bali. On m'avait dit bon nombre de choses, mais il faut vraiment y vivre pour voir et comprendre un peu. Ici, tout le monde apprend tous les instruments. Le concept de meilleur n'existe à peu près pas et l'erreur est considérée comme humaine. J'ai rarement vu des sautes d'humeur ou un professeur sanctionner un élève. Il y a quelques jours, lors d'une cérémonie de consécration de la maison, on m'a assigné le gong suspendu qui ponctue le discours, la musique. Je devais pendant une heure battre la mesure. Quand une erreur se glissait dans mon jeu, au lieu de me faire des gros yeux, les musiciens s'esclaffaient de rire et dans des séquences rythmiques complexes, ils essayaient de me distraire pour me faire encore tromper. On m'a donné un nom balinais, Nyoman Kenyung, ça veut dire le troisième né riant. Chose remarquable, je n'ai pas encore vu de spectacle, car actuellement les seuls que l'on peut voir sont des présentations pour touristes. Nyoman Kenyung ne peut pas se permettre de voir ses mauvaises imitations. Sur l'île des dieux, je préfère vivre avec les dieux qu'avec les autres. Bali, le 26 décembre 1976. Cette île, je vais devoir bientôt la quitter. Avec moi, j'emporterai tous ces personnages du théâtre musical qui font encore pleurer les balinaises, rire les balinais et pleurer les enfants. Ces chefs-d'œuvre d'humour et de drames sentimentaux. « Je n'ai pas de fiancé », répète un clown, et tout le drame se concentre à la recherche de l'amour, tout autant les rois, les paysans, les fous et ces titanesques dieux. Tous ces êtres tellement merveilleux, d'une douceur angélique et d'un amour du jeu démoniaque. Je suis devenu un peu baliné, j'ai ri, j'ai pleuré et j'ai eu peur de tout. Thank you. le 25 janvier 1977. Ce fut un beau voyage, une leçon d'amour, de tendresse, de poésie et de respect de la vie que ce voyage à Bali. Ces mots peuvent paraître étranges quand je parle de musique, mais comment ne pas parler d'amour quand un ami en guise d'adieu danse pour moi, quand cette vieille femme m'offre un fruit pour mon voyage à Java, car pour elle, le plus loin qu'on peut partir de Bali, c'est Java. Expérience de compositeur, certes, mais aussi expérience humaine. Ici, la musique reste finalement au fond du cœur. On comprend la musique parce qu'elle parle au cœur. Mais ce cœur, ce n'est pas ce que l'occidental peut y comprendre, mais une sorte de cœur cosmique qui d'amour pourrait embraser tout l'univers, qui d'humour pourrait faire rire tout l'univers, un cœur encore qui de poésie pourrait faire pleurer tout l'univers et qui, plein de joie, peut faire danser tout l'univers. Ne manquerons surtout pas la correspondance de 15h21 dimanche prochain, peut-être sur la plateforme arrière d'un bus de la ligne 84, qui sait ?
Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
L'émission se termine et on va quitter à regret les splendeurs de la musique de Gamelan. Constatons ensemble qu'il n'est pas certain que la musique de Gamelan soit soluble. Son nectar puissant justifie de ne surtout pas la diluer, mais simplement de se laisser ravir par ses enchantements. Merci de nous avoir suivis dans ces péripéties entre les hémisphères. Nous repartirons pour les îles lointaines un jour ou l'autre. Prochain rendez-vous dans une semaine, ce sera le premier dimanche d'octobre, premier dimanche du mois, une thématique développement personnel. Donc, eh bien, ce sera « Je n'arrive pas à finir ». Allez, j'arrête pour aujourd'hui. Sur la page « Mazette, quelle musique ?» du site de France Musique, vous trouverez toute la programmation musicale d'aujourd'hui, la réécoute, le podcast de cette émission et de celles qui l'ont précédée. Pour cette émission au long cours, jusqu'aux îles lointaines des mers du Sud, la fine équipe avec moi a rassemblé Nelly Portal, Nicolas de Pingraff et rien moins que Laurent Lefrançois. Merci à chacune et à chacun. Excellente semaine sur France Musique et dans moins d'une minute, Félicien Bru, bien revenu de Vienne, sera avec nous pour Brut d'accordéon.
À réécouter sur francemusique.fr.